Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir chers auditeurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver.
Et oui, on espère que vous êtes bien reposés. Or maintenant, la rentrée a bien eu lieu. Vous êtes de retour sur les bancs de l'école, du collège, au boulot, pour d'autres, dans la rue, pour d'autres encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu remuant et vous allez comprendre que ça a eu quelques...
L'été a été chaud et ça continue un peu. Quoi.
Ça a engendré, pardon, quelques petits problèmes avec nous pour l'émission, puisque nous avons des invités, mais ils n'ont pas pu parvenir jusqu'à nous. Et nous les aurons au téléphone. Et puis, Guillaume Sidom, on ne sait pas, malade, peut-être bien. En tout cas, c'est le certificat médical qu'il nous a envoyé. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Il souffre des dents. Et on pense à lui et les auditrices aussi, puisqu'elles étaient nombreuses pensant l'accueillir ce soir. Et non, elles sont déçues.
Oui, qu'on se rassure, il n'a pas une dent contre nous. Et il peut continuer à jouer au bridge.
Non, exactement. Eh bien, ce soir, il y a plein de belles choses prévues, en particulier les vôtres. Laurent, combien de films allez-vous nous proposer à regarder à la télévision?
J'ai sélectionné 4 films pour passer une bonne soirée tranquille à la maison, en évitant les parpaings et les poubelles qui volent.
Oui.
Et il y aura aussi un conseil Blu-ray, voilà, une belle galette tout au chaud, un grand film de l'histoire du cinéma qui vient de sortir.
Magnifique. Il y aura avec nous également notre homme de loi des séries avec son tribunal, à savoir Grégory Combe, qui va parler à la fois de Cobra Kai et de Karate Kid Légende, puisque l'un est l'adaptation de l'autre en série, donc en streaming, puisque c'est sur Netflix qu'on retrouve Cobra Kai. Mais Karate Kid Légende, ben, vous n'êtes pas sans le savoir, est sorti au cours de l'été. Et notre spécialiste des séries et grand fan de Cobra Kai et de Karate Kid va vous en parler avec ferveur, très probablement, et passion, sûrement. Et puis, il y aura d'autres rubriques, évidemment, celles que vous avez coutume de retrouver dans le panier de l'ouvreuse, à savoir l'affiche de la semaine qui sera scrutée attentivement par vous et l'ouvreuse, Laurent. Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran, avant les vôtres, sur le petit. Puis bien sûr, en fin d'émission, les coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations et autres... Exposition.
Pour les manifs, c'est bon pour aujourd'hui.
Oui. Exposition qu'on a envie que vous alliez voir, voilà, de notre part. Et puis, je vous le disais, on donnera un coup de téléphone tout à l'heure, dans quelques minutes, à Jean-Baptiste Salva, le directeur du CGR Blagnac, et un peu plus tard à Marc Pasquet, qui est en charge de la programmation, mais il n'est pas tout seul au FIFIGRO, le Festival International du Film du Groland de Toulouse, qui va se tenir de lundi prochain 15 septembre à dimanche 21 septembre, et ce sera la 14e édition qu'on attend toujours avec la plus vive impatience. Voilà, je crois qu'on vous a tout dit pour vous présenter ce qui se passe dans ce premier numéro de cette toute nouvelle saison que nous allons passer ensemble jusqu'en juin prochain. C'est vous dire si de bien belles choses vous attendent. Bon début de soirée avec nous. Et comme le veut la coutume et l'habitude, on commence par la projection d'un film. Alors, installez-vous confortablement, puis regardez bien en bas de votre poste ou de cet outil que vous utilisez pour nous écouter, parce que maintenant, on ne sait plus trop quoi dire, puisque ça peut être le téléphone, ça peut être le DAB, ça peut être la FM, plein de choses possibles. Alors, regardez bien en bas, parce qu'il y a les sous-titres à ne pas manquer.
Have you fellas got a boat stashed away somewhere? No, can't see it. And we're travelling north. No, I'd say quick run up through France and then over the drink. That's your only problem, seems to me, getting me over the water.
Yeah, well, Corrigan ain't in London, he's in Paris.
Myra.
Sorry, Mr. Braddock.
Sorry, Mr. Braddock, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où se trouvent ces trois personnages? On entend trois voix beaucoup plus l'une que les deux autres, mais c'est pas évident à reconnaître, bien sûr, puisqu'en plus c'est en anglais. C'est un film qui date de 1984 et qui s'intitule The Heat et qui était réalisé, qui est toujours réalisé par Stephen Frears. Et on vous fait écouter ça en début de saison. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu des disparitions pendant notre absence et la disparition d'un acteur qu'on aimait beaucoup et qu'on aime toujours, malgré tout.
On aimera toujours.
Oui, Terence Stamp, ouais. Qui est parti en août dernier. Et celui qu'on entend le plus dans cet extrait, c'est lui qui incarne Willie Parker. C'est un truand anglais qui a dénoncé ses complices en échange de la liberté. Et il vit incognito en Espagne. Et 10 ans plus tard, ses ex-complices sont sortis de prison. Et donc, ses complices engagent 2 professionnels. Attention, entre guillemets, hein, c'est important. Braddock, le vétéran, c'est John Hurt. Et Myron, c'est Tim Roth, un débutant à l'époque, en 84. Oui. Donc, c'est la première mission. Et voilà. Et ils enlèvent Parker. Donc là, il est dans la voiture, il roule. Et ce qu'il leur dit, il vient d'être enlevé. Il est à l'arrière avec le vétéran. Et il parle et dit, alors, c'est ce qu'il raconte dans l'extrait que vous venez d'entendre. Alors, je pense que vous n'avez pas un bateau près d'ici. N'oubliez pas qu'ils partent d'Espagne et ils pensent retourner en Angleterre. Vous n'avez pas un bateau près d'ici, donc je pense pas que... Parce que comme on roule vers le nord, dit-il toujours, on va y aller par la route, mais il va falloir traverser l'Espagne, la France, et après passer le Channel, mais ça va être compliqué avec moi. Et oui, la frontière, compliquée, effectivement. Et parce que ceux qui l'attendent sont censés être à Londres, bien sûr, puisqu'il est anglais. Et le jeune qui conduit lâche le morceau, non. On va pas à Londres, on va à Paris. Mais ça, il aurait pas dû le dire. Voilà. Et tout va s'enchaîner comme ça, et le film va être un road movie avec ses trois personnages, et surtout ce Parker qui se doutait que ça arriverait un jour ou l'autre, reste d'un calme olympien, vous l'avez compris, et il va s'amuser à pousser ses ravisseurs à l'erreur.
Pour pouvoir s'échapper.
Et il va bien y arriver. S'échapper ou pas, mais... Allez voir le film. Un petit mot sur Terence Stamp qui laisse derrière lui, et je cite sa famille, une œuvre extraordinaire aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant qu'écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années. C'est vrai, il était né en 38 à Londres, et son frère d'ailleurs, Chris Stamp, est devenu le manager du fameux groupe Les Who. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'art, dans la musique, dans le cinéma, l'écriture. Ouais. La famille Stamp, il commence sa carrière au cinéma après avoir été repéré par Peter Ustinov, suit pas mal de films. Et son premier rôle, d'ailleurs, lui vaut un Golden Globe du meilleur jeune espoir. Il reçoit le prix d'interprétation au Festival de Cannes avec L'Obsédé de William Wyler. Là, on est en 1965. Bon, puis alors, sa carrière va alterner avec des films d'auteur et puis des films grand public, parce que on le verra chez Ken Loach, certes, mais chez Fellini aussi, Edgar Poe, je le disais. Mais il y aura aussi Star Wars, hein, Le Sicilien, Wall Street. C'est très large. Et puis, Et puis, il y a le film qu'on adore, c'est le film de Stephen Elliott, Priscilla, folle du désert, où il est extraordinaire côté de Guy Pearce, notamment, pour interpréter cette drag queen qui traverse l'Australie dans ce bus-là, extraordinaire, pour aller à Alice Springs. Et ben, on les écoute justement, tous les trois dans ce spectacle qu'elle donne à la fin du film dans le casino qu'ils ont dû rejoindre.
Ladies and gentlemen, Lasseter's Casino, Alice Springs presents Miss Mitzi Del Bra, Miss Felicia Jolly Goodfellow, and Miss Bernadette Bassington, the sisters of the Simpson Desert. Send me the-
Et nous laissons nos folles interprètes sur cette scène extraordinaire du casino de Dalles Springs en australiste extraordinaire, Finally Violin. Ah, c'est énorme, extraordinaire. Tout ça pour rendre hommage à Terence Stamp. Il est avec nous en ligne et on est content de l'avoir avec nous. Bonsoir, Jean-Baptiste Salva. Bonsoir. Ah, on a un petit problème. Voilà. Et c'est intéressant, mais nous n'avons personne en ligne. On va s'écouter un autre petit morceau, peut-être, et on va voir ce qui se passe, hein, où on continue à écouter Violin. Tiens. Petit problème semble durer. Un petit problème de téléphone, ce qui est ennuyeux. On espère pouvoir le résoudre d'ici la fin de l'émission. Toujours est-il que l'ouvreuse retrouve son rythme endiablé, enfin en tout cas on l'espère, avec l'affiche de la semaine, l'ouvreuse et vous Laurent.
À l'affiche cette semaine, Sirat, prix du jury à Cannes, le nouveau film d'Oliver Lax avec Sergi Lopez. Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Louis, accompagné de son fils Esteban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Il rallie un groupe de rêveurs lancés à la recherche d'une énième fête dans les profondeurs du désert. Il s'enfonce dans l'immensité brûlante d'un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. Alors, la fin du monde, selon Oliver Lax, aurait un peu l'allure d'une pièce de Samuel Beckett, hein, quelque chose de solitaire et absurde qui entraînerait ses ouailles vers un ailleurs où l'humanité réduite à presque rien devrait se débrouiller toute seule. Le vaste désert marocain étant son immensité, une poignée d'hommes et de femmes ont posé des murs d'enceinte au pied des falaises pour envoyer du gros son et bouger par saccades au rythme syncopé d'une musique trance. Et au milieu de cette free party, donc, un homme incarné par Sergi Lopez est à la recherche de sa fille disparue. Il est accompagné, je l'ai dit, de son jeune fils et d'un petit chien. Il distribue des avis de recherche, s'adresse à qui veut ou qui peut l'entendre. Puis l'armée viendra disperser cette foule déchaînée. Cet hédonisme sauvage s'arrête brutalement. brutalement. Alors le monde, on le comprend à travers les flash infos, est au bord du chaos sans que l'on sache s'il s'agit de notre présent ou d'une vision post-apocalyptique à la Mad Max. Et de fait, d'ailleurs, dans ce vaste nulle part, la recherche d'essence sera vite un sujet. Alors ceci posé, le film trace sa route avec une poignée de desperados et en choisit de se frotter à l'inconnu. C'est un road movie déglingué et d'emblée condamné à ne mener nulle part. Syrat renvoie au cinéma désenchanté hein, de la fin des années 60 et des débuts des années 70. Avec des films comme Easy Rider, Macadam à deux voies ou Zabriskie Point, censés traduire la fin d'à peu près tout, hein, la fin des rêves, des espoirs et des récits. Et si deux enceintes posées sur le sable en plein cagnard évoquent les monolithes de Kubrickien de 2001, le mystère que les images et les sons produisent ne convoque pas vraiment à la même métaphysique. Et pour autant, à l'instar de 2001, la musique, quant à elle, se fait entendre, remplit tout l'espace. Oliver Lax, le cinéaste baroudeur de 43 ans, sonde sous la surface des choses le grand mystère de l'existence. Ces héros appartiennent toutefois à notre monde moderne. Hein, le personnage incarné par Sergi Lopez à l'allure du Candide au milieu d'initiés. Mais advienne que pourra, l'expérience est enivrante de bout en bout. A noter que le film a été difficile à financer. Syrat a notamment pu être produit grâce au frère Almodovar. Il a été tourné en Espagne et dans le sud marocain avec des effets spéciaux complexes. C'est comme un film américain avec des gros camions et des explosions en souris. Oliver Lax, le réalisateur, a noté aussi que la bande-son omniprésente, Electropunk, a été composée par le DJ français Kang Ding Ray. Petite revue de presse sur ce film ensorcelant, au cœur de la nature, ne se regarde pas, il se vit, selon Première. L'humanité a bien aimé aussi un cocktail détonnant, magnifique et dérangeant pour l'un des plus beaux films de l'année. Critique positive pour La Croix aussi, Syrat est un road movie halluciné et fascinant jusqu'au bout du bout. Petit bémol pour les cahiers du cinéma, alors j'ai pas tout à fait compris ce qu'ils ont voulu dire, mais je vous le livre, hein, vous m'expliquerez. Voilà le projet bêtement théorique du film, retrouvé dans le frisson empathique, l'équivalent du drop, ce point de bascule extatique propre à la musique électro qui met mal à l'aise. À l'affiche aussi cette semaine, on revient en France avec Connemara, le nouveau film d'Alex Luce, avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon et Jacques Gamblin. Issue d'un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Elle a aujourd'hui la quarantaine et un burn-out brutal l'oblige à quitter Paris et à revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Épinal. Et un soir, sur un parking, elle aperçoit un visage connu, celui de Christophe Marchal, le bel hockeyeur des années lycée. Ça va être de France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s'aimer. Cette idylle leur sera-t-elle possible? Alex Lutz, vous le connaissez, hein, il se déploie maintenant avec réussite hein, depuis plusieurs années sur plusieurs fronts, à la télévision avec son fameux Catherine et Liliane, au théâtre hein, avec des seules en scène vraiment brillantissimes, au cinéma bien sûr, devant et derrière la caméra, avec notamment le génial Guy, hein, pour n'en citer qu'un, et en s'attaquant après leurs enfants, après eux, des frères Boukerman, à une adaptation cinématographique hein, d'un roman de Nicolas Mathieu. Lutz se lance un nouveau défi entouré d'un beau casting, hein, Mélanie Thierry et Bastien Bouillon. Petite revue de presse là aussi sur ce film. Alex Luce tire le fil de la nostalgie des années 80-90, cher au cinéma français actuel, avec justesse et ce qu'il faut de désillusion dans le ton. Les thèmes du transfuge de classe, de la nostalgie et de la culpabilité sont portés par une mise en scène ambitieuse selon les cahiers du cinéma. Bémol pour avoiralire.com. Le scénario, hélas, s'enlise dans les tourments névrotiques d'une héroïne, pour ne pas dire mélodramatique, dont il n'a pas grand-chose à faire. À l'affiche aussi cette semaine, pas mal de sorties. On peut voir aussi Une place pour Pierrot d'Hélène Médiguet, c'est l'histoire de Camille qui cherche une place pour son frère autiste, avec Marie Gillen dans le rôle titre. On peut voir aussi Toujours possible, une comédie de Jacques Onish au CGR Blagnac, par exemple. On peut voir Libre-échange de Michelangelo Covino, une comédie à l'américaine Cosmographe. On peut voir Downton Abbey 3, le grand final de Simon Curtis, c'est un drame historique. On peut voir Renoir de Chaye Akawaya à l'ABC Toulouse, au Grand Palais à Cahors. C'est le portrait d'une fillette de 11 ans dans le Tokyo de 1987. On peut voir un film d'horreur cette semaine, Conjuring, l'heure du jugement, de Michael Chavez. On peut voir aussi un documentaire Première classe de Katharina Kornastai au Régent à Saint-Gaudens, ou comment faire une école en Ukraine dans un pays en guerre. Et puis pour finir, pour tout public, Shaun le Mouton, La ferme en folie de Lee Wilton et Jason Grace.
Begin to think I understand, and it will be you and I always been. Ever and ever, I see myself within your eyes, and that's all I need to show the world.
Kenny Loggins et Stevie Nicks interprètent Whenever I Call Your Friend. C'est dans la BO de Libre-Échange de Michelangelo Covino, une comédie sentimentale, vous savez, où les couples se croisent au moment où ils sont sur la séparation, et derrière l'humour de ce film et sa légèreté, Libre-Échange donc montre plutôt une chronique acide des liens amoureux. Kenny Loggins et Stevie Nicks pour retrouver Jean-Baptiste Salva qui est bien patient. Jean-Baptiste ? Allô, allô, Jean-Baptiste ?
Oui.
Ah, j'avais peur que ça ne fonctionne pas non plus. Alors là, j'étais désespéré. Excusez-nous encore, Jean-Baptiste. Comment allez-vous ?
Eh ben, ça va très bien, et vous ?
Ça va. Vous êtes le directeur du méga CGR de Blagnac. Et ça se passe bien pour vous, la rentrée ?
Eh ben ça, quand on a fait un mois d'août assez timide, il faut dire. Et du coup, on attendait avec impatience un peu la reprise d'activité qui revienne. Et ça a lieu aujourd'hui, en fait, pour être plus précis, avec le film Conjuring, qui est un temps fort un peu dans les cinémas, dans les multiplex comme le mien. Donc voilà, on est content depuis aujourd'hui, on va dire. Donc c'est récent.
Mais tant mieux pour vous, et tant mieux pour nous qui sommes cinéphiles. Et vous avez une programmation très large, et c'est entre autres pour cette raison pour laquelle nous vous appelons, pour prendre de vos nouvelles bien sûr, mais aussi pour vous nous parliez d'une avant-première qui se tient dans votre cinéma dimanche prochain, et cette avant-première c'est Sacré-Cœur.
C'est le film Sacré-Cœur, effectivement, où les réalisateurs et réalisatrices seront présents pour échanger avec le public. On a de temps en temps, c'est un distributeur de films qui s'appelle Sage Distribution qui programme occasionnellement dans l'année des films sur la chrétienté, sur la croyance, sur les religions. Et on aime bien programmer quand même de certaines de leurs films parce qu'on voit qu'il y a un public assidu qui vient. C'est pas des grosses productions avec des centaines de milliers d'entrées, mais chaque fois qu'on programme ces séances-là, on constate qu'il y a un engouement particulier pour ces films-là. Donc là, quand ils m'ont dit qu'ils pouvaient venir, avec en plus les réalisateurs, la réalisatrice, c'est le Sacré-Cœur de Toulouse aussi qui sera présent. On s'est dit, ben banco, on le fait, et ça, je suppose que ça va être une très belle après-midi.
Alors Sacré-Cœur, c'est un docu-fiction qui est signé Steven et Sabrina Gunnell. Et ce docu-fiction revient sur ce qui s'est passé, ce qu'a vécu Sainte-Marguerite il y a de cela 350 ans, et qui a rencontré Jésus. Et là, on voit dans ce film ce qu'il en est advenu de nos jours, et c'est plutôt saisissant dans la mise en scène. Vous organisez également un débat à la suite de cette projection.
C'est ce qui m'a intéressé dans cette avant-première, parce que pour être clair, quand une avant-première en présence d'acteurs se programme, quand c'est un peu court en délai pour communiquer dessus et tout, je réponds pas toujours favorablement. Là, j'ai senti quand même que malgré on m'a contacté il y a tout juste une semaine, je trouvais que c'était quand même court pour monter l'opération. Mais quand ils m'ont dit bon, il y aura les deux réalisateurs qui seront présents pour échanger avec le public à la fin, il y aura c'est en partenariat avec le Sacré-Cœur de Toulouse, il y a quand même un public fidèle qui relaiera l'information dans les différentes paroisses. Bon, je me suis dit ça vaut quand même le coup d'avoir ce temps d'échange, parce que d'une part, je suis à la base chrétien, même si je ne suis pas pratiquant. Voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet, le Sacré-Cœur, qui m'a toujours un peu échappé, sur lequel j'ai peu de connaissances. C'est assez récent quand même, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est 300, 350 ans par rapport à l'histoire de
Sainte-Marguerite.
On est quand même sur une échelle 300 ans, ça paraît énorme, mais c'est finalement peu. Et du coup, ça m'intrigue. Pour dire vrai, j'ai pas vu le film, je le vois demain matin. Je suis très curieux d'en apprendre plus sur cette partie-là, sur le Sacré-Cœur justement. Et donc voilà, je suis très curieux de ça, et j'espère que les spectateurs viendront également pour profiter de cet échange, soit pour aussi apprendre beaucoup de choses sur ce thème-là.
Voilà, alors j'avais écorné un peu le nom de la sainte, c'est Sainte Marguerite Marie, hein, ne pas oublier son c'est un prénom composé. Alors une belle avant-première que vous nous proposez là, Jean-Baptiste Salva, c'est dimanche à 18h, après rencontre avec les co-réalisateurs qui sont aussi époux et épouses à la ville, et puis il y a le père Guillaume Loz de la paroisse du Sacré-Cœur, donc dont vous avez parlé, qui sera présent aussi à l'issue du film pour débattre avec le public. Une belle avant-première en perspective, et comme vous avez le cœur sur la main, Jean-Baptiste Salva, oui. Vous offrez quelques places à nos auditeurs, et bien ils n'auront qu'à nous contacter cinéma@radioprésence.com pour pouvoir aller voir le film, et puis il y en a déjà qui ont réussi à nous contacter par le biais de Facebook. En tout cas, Jean-Baptiste Salva, merci de nous avoir parlé de cette avant-première et de nous avoir parlé un peu de votre cinéma, et excusez-nous encore pour ces déboires téléphoniques.
Non, mais pas de souci. Merci à vous de ce petit coup de projecteur sur cette avant-première. Donc voilà, je vous remercie également.
Eh bien, à bientôt pour une autre avant-première, peut-être dans un genre complètement différent.
Peut-être.
bonne soirée à vous et beau cinéma.
Allez, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Les réflexes sont un peu rouillés en ce début de... en ce début de saison, ça fait clic-clac, ça fait tout, on a du mal avec le téléphone, mais on y arrive, vous nous pardonnez, en tout cas, c'est ce qu'on aime à la radio, et surtout au direct, n'est-ce pas Laurent ?
Oui, sur les aléas du direct, vous avez raison, on est un peu rouillé encore, il faut nous laisser le temps de nous remettre dans le bain.
On a
quelques... Deux mois sans cinéma.
Ah oui, et surtout sans vous parler, et... c'est ça qui est difficile. Thank you. Et sur la bande-annonce du Fifi Gros, on a peur de rien, on se précipite à nouveau sur le téléphone pour être sûr que ça fonctionne. Encore et toujours, on retrouve Marc Pasquet qui s'occupe de la programmation pour ce Festival international du film groenlandais de Toulouse. Bonsoir Marc Pasquet.
Bonsoir Marie, bonsoir l'équipe, bonsoir à tous.
Ah, on est soulagé de pouvoir vous entendre comme nous avons entendu à l'instant. On a pu causer un petit peu avec Jean-Baptiste Salva. Alors Marc Pasquet, les aléas font que vous n'êtes pas avec nous dans le studio. Toujours est-il qu'on peut quand même causer de ce qui va se passer entre le 15 et le 21 septembre prochain au Groland. Alors, combien de belles choses et quelles belles choses vous allez nous proposer, Marc ?
Alors, pour parler en termes de chiffres, dans la globalité du festival, nous aurons 96 séances de cinéma, tout support confondu, 96 films projetés donc. On aura une sélection de courts-métrages, 8 seront en compétition, 3 séances de films en compétition et 5 séances de ciné-bistro. On aura par exemple en temps fort 2 thématiques que nous allons développer, alors à notre manière bien évidemment, une sur la foule en partenariat avec le Quai des Savoirs. Dans cette thématique, je vous invite à suivre particulièrement un film pour lequel il n'y aura qu'une séance unique, qui s'appelle Jallikattu. C'est un film indien qui a très très peu de chances de sortir dans nos contrées et qui est tout à fait remarquable. Après, nous avons une autre thématique dans nos deux thématiques principales. La seconde, c'est les pays imaginaires. Et nous avons sous-titré ça Les frontières, c'est de la merde. Bon.
Oui.
Je vous laisse apprécier.
Oui, oui. Ça m'avait attiré, Les frontières, c'est de la merde, effectivement. Avec quelques bien belles choses proposées, en particulier quelques frontières loufoques et saugrenues dans le fameux film Passeport pour Pimlico.
Ça, c'est... Passeport pour Pimlico, qui raconte l'histoire de cette petite enclave au milieu de ce quartier, au milieu de Londres, qui se retrouve être un duché annexé par le Luxembourg il y a des centaines d'années, et qui réclame son autonomie et qui s'insurge contre la couronne royale. Oui, donc c'est quelque chose d'assez surprenant.
Oui, le film est une comédie assez débridée, sortie en 49, et ça rappelle du fait que pour donner du fil à retordre au gouvernement britannique, les résidents de Pimlico arrêtent les métros pour demander aux passagers leur passeport. C'est assez savoureux. Alors, quoi d'autre? Quels sont les autres? Vous nous avez parlé des thématiques. Il y a une compétition, bien sûr. Dans la compétition, combien de films avez-vous sélectionné?
Dans la compétition, il y a une dizaine de films. Alors, tous en avant-première, bien sûr. Et il y a quelques films qui sont remarquables, qui passeront d'ailleurs au Cosmographe dès leur sortie en salle plus tard. Notamment Kika d'Alex Poukin, un film sur une assistante sociale qui fait la découverte du milieu du BDSM. Ah. C'est assez jouissif et assez rigolo. Après, nous avons une fable ésotérique brésilienne qui s'appelle Le Voyage de Teresa. C'est un voyage tout à fait poétique. On aura aussi le prochain, parce qu'il n'est pas sorti, Radu Jude,
oui,
qui s'appelle Continental 25.
Vous l'aimez bien, Radu Jude, hein. Il y a quelques fois qu'il a été programmé. Il faut dire que ses films sont passionnants.
Oui, c'est tout à fait remarquable. Il a une œuvre tout à fait insolite et remarquable. Et dans nos contrées groenlandaises, nous en sommes très friands.
Oui, il me semble. Hein. Le Groland aime ce genre de cinéma. Un autre film pour nous attirer dans cette compétition?
Alors dans cette compétition, alors moi j'ai un petit cœur, mais c'est le mien, il n'est pas forcément partagé par tous, mais moi j'ai une affection particulière pour un film qui risque de ne pas être distribué en France également, qui s'appelle Warum Wetelen. C'est un film belge, c'est un mi-chemin entre un road trip Fessenden, mais en beaucoup, beaucoup plus léger que Fessenden. C'est quand même une comédie assez loufoque et nonsensique, à la suite d'un corbillard qui traverse la Belgique vers un pays imaginaire. Voilà, c'est quelque chose de complètement surprenant et d'extraterrestre, comme on aime.
Hein. Effectivement, on aime ça. Et on aime l'ambiance groenlandaise de toute façon et tout ce que vous nous proposez, Marc. Dites-nous, cette année, le gros jury, qui le compose ? Ils sont quatre ?
Tout à fait. Alors, le gros jury, il y aura Hélène Vedet. C'est une actrice australienne qu'on a pu voir dans Mad Max. Et c'est une actrice fétiche de Rolf de Heer.
Ah, oui.
On a Stéphane Castan,
lui
le
aussi.
Réalisateur de Vincent doit mourir.
Qui était programmé, hein, si je ne m'abuse, il y a 2 ou 3 ans, hein, au Groland.
Oui, il avait eu un prix, je ne sais plus lequel, mais il avait eu un prix à l'époque. Oui. On aura Esteban.
Tout le monde connaît le visage et la voix d'Esteban.
Oui, on l'avait notamment vu au Fé Figaro dans La fiancée du poète, de oui. Léon Moreau, et dans Selfie, qui était passé. Et Alante Kavaite, alors c'est une réalisatrice franco-lituanienne, et son film Belladone est sorti avant l'été dans les salles. Voilà les quatre membres principaux de notre jury cette année.
Le jury qui attribuera donc l'Amphore d'or, ne pas oublier qu'il y aura également l'Amphore du peuple, c'est le prix du public.
Oui. Et l'Amphorette concernant les sélections de courts-métrages. Et alors là, c'est pareil, c'est exclusivement le public qui élit le meilleur court-métrage des 3 sélections que nous proposons.
Et puis il y a le fameux prix Michael Cull en partenariat avec Benoît Delépine.
Et alors ça, c'est toujours un mystère.
Oui, ça reste un mystère. À ce propos, Benoît Delépine propose son nouveau film, il me semble. Hein.
Oui, nous allons diffuser à l'American Cosmographe en avant-première Animal Totem, son nouveau film, qui est une fable écolo-politico. Pareil, en forme de road movies à travers les plaines autour de entre Beauvais et Paris, à la suite du personnage qui traverse des champs, des forêts, jusqu'à Paris, avec une valise attachée à son poignet. Voilà, et tout se dénoue sur une scène finale mémorable, avec un format d'image très particulier, puisque c'est un format encore plus large qu'un cinémascope. Donc ça donne un rendu visuel totalement saisissant.
Laurent Martin a quelque chose à vous demander, Marc Pasquier.
Oui, bonsoir Marc. Je voulais savoir si le président Micron et Brigitte seront présents. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils dissolvent le Fifigro, parce qu'ils adorent dissoudre apparemment.
Ils seront présents, mais nous ne les laisserons pas faire.
D'accord.
Mais ils seront bien présents, effectivement.
Alors, il y a les compétitions, les films, les courts-métrages, mais il y a aussi quelques expos, quelques rencontres, des livres aussi. Et tout se passe en bord de Garonne, n'est-ce pas ? Enfin, pour...
Tout à fait. Nous avons le gros village au port de la Viguerie. Comme chaque année, nous allons installer nos quartiers pour une semaine, avec tous les soirs des concerts, des conférences. Il y aura une expo sur le site, il y aura une librairie où on pourra acheter les œuvres qui figurent au gros prix littéraire, et plein de choses, 2 séances de cinéma en plein air, et plein d'autres choses.
Bah, ça fait un beau programme en perspective, donc ça va se passer dans différentes salles toulousaines, vous l'avez dit, à l'American Cosmographe, à l'ABC, il y en a d'autres encore ?
Au Cratère, au Pâté. Et, alors, comme chaque année, le cinéma de l'Union, le Lumière, nous prend une séance d'un film à l'Union. C'est le seul décentralisé qui souhaite chaque année avoir une projection, et donc avec plaisir nous lui avons proposé un film qui, de mémoire, alors, je ne sais plus ce que c'est.
Alors, mais... En tout cas, on ira à l'Union, aux Lumières, et on vérifiera si on a besoin de papiers particuliers pour aller dans ce cinéma, si ceux du Groland suffisent.
Ah ben tout à fait.
Oui.
On achète un pass, on peut aller assister à toutes les séances, dans toutes les salles partenaires de notre festival. Donc,
bon, alors, rendez-vous sur les quais pour le Gros Village et dans les salles pour toutes les belles choses que vous nous proposez au niveau cinématographique, les expos et les bouquins, tout ça, les débats, tout se passe dans de la meilleure des façons au Groland et en votre compagnie, Marc Pasquet. Merci.
Merci beaucoup.
Merci Marc.
Et au revoir à vous.
Et oui. pour vous raccompagner à propos des frontières, c'est de la merde, c'est incroyable, mais dans les frontières, c'est de la merde, vous proposez ce film-là. Allez, on vous laisse écouter ça tranquillement et on est bien content qu'il soit au Groland et que le Groland soit de retour entre le 15 et le 21 septembre à Toulouse, le Fifi Gros. Exclusivité grolandaise. Au revoir Marc.
Merci à vous Louis-Marie et Laurent.
Au revoir.
Au revoir. In the face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere. Again in the light. Written on the pages is the answer to a never ending story.
Et oui, L'histoire sans fin est proposée au 14e Fifi Gros, le film de Wolfgang Petersen, qui est sorti dans les années 80 et dont la BO, chantée par Limahl, a connu un succès phénoménal. Sans transition, on tape les coups de l'entrée au tribunal des séries et Grégory Com nous parle de Cobra Kai et de Karate Kid Légende.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, face à la sinistrose, face à un monde de plus en plus compliqué et triste, moi je vous propose quelque chose, non pas aller de l'avant, mais d'aller en arrière et d'aller voir un petit peu ce qui se faisait pendant les années 80. Et justement, un revival des années 80 de qualité, c'est tellement rare qu'il fallait en parler. Alors, je vous parle souvent de la série Cobra Kai, hein, qui est la suite de Karate Kid, mais je vais vous parler ce soir de la fin de Cobra Kai et du film Karate Kid Légende, qui est toujours au cinéma en ce moment et que je vous recommande fortement. Alors, vous le savez, ça m'a gonflé ces dernières années, on était sur une fausse nostalgie. Ça voulait dire quoi la fausse nostalgie? Ça voulait dire aller chercher un produit des années 80, en faire une suite, reboot, soft remake, tout ce qu'on veut, et le dénaturer complètement. Évidemment, Star Wars qui a été massacré. En gros, les grands studios disaient « On va prendre ce que vous avez aimé, on va vous expliquer que c'est nul, et on va vous faire autre chose qui ne va pas vous plaire. » Eh bien, Cobra Kai, c'est la suite parfaite de Karate Kid et qui respecte l'origine vraiment de l'œuvre tout en allant de l'avant. Et Karate Kid Légende, c'est la même chose. Alors Cobra Kai, je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas tout vu, mais on a 6 saisons complètes qui racontent du point de vue, la suite du point de vue de Johnny Lawrence, c'est-à-dire l'ennemi dans Karate Kid 1. Sa vie, comment il a évolué depuis sa défaite. Et au fur et à mesure, on va avoir effectivement sa rencontre à nouveau avec Daniel LaRusso, le héros de Karate Kid, comment ce dernier aussi a évolué et comment ils vont peut-être s'affronter, mais aussi se réconcilier. Et surtout, c'est une ode à la passation et presque au devoir de mémoire, j'ai envie de dire, mais comment un sensei apprend à ses élèves et comment les élèves apprennent à son sensei. Parce qu'en fait, Cobra Kai va être une histoire de transmission et de faire monter une nouvelle génération. Et là, vous allez me dire, ah non, nouvelle génération, ça veut dire teenage movie, ça veut dire tous les poncifs de Netflix actuellement. Non, justement. L'ancienne génération a fait des erreurs, mais a fait des grandes choses. La nouvelle génération va faire des erreurs et va faire des grandes choses, et ensemble, ils vont grandir. On est dans un média respectueux de son héritage, qui peut rire, qui est parfois en mode un peu série Z, hein, qui se prend pas tout le temps au sérieux, mais c'est fait exprès, mais qui aussi va véhiculer des valeurs, je dirais, de respect, de dépassement de soi, d'acceptation et de pardon. Et je ne spoilerai pas, mais je peux vous dire les choses, c'est que le final, même si la saison 6 est un peu longuette, moi ça m'a dit, mais certains l'ont trouvé un peu longue, le final est exceptionnel. Le final remet au goût du jour tous les poncifs des années 80 et conclut parfaitement la série. Il lui manquait qu'un point, il conclut parfaitement l'évolution de Johnny Lawrence et l'évolution de ses élèves. On voit aussi une évolution de tous les autres personnages et beaucoup d'anciens qui reviennent de la franchise Karate Kid, et je ne vais pas vous spoiler. Il y avait un petit manque, je vous avoue, c'était que le personnage de Daniel LaRusso évoluait bien, mais il lui manquait un nouveau pas à franchir, et c'est là où arrive le film Karate Kid Légende. Le film Karate Kid Légende, il se passe 3 ans après Cobra Kai. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu Cobra Kai, même pas obligé d'avoir vu Karate Kid pour aller voir Karate Kid Légende. Le film se suffit à lui-même. Par contre, si vous avez vu ces œuvres-là, il va y avoir des clins d'œil, des évolutions de personnages qui vont vous plaire. Alors, ça parle de quoi Karate Kid Légende ? Li Fong, c'est un adolescent qui fréquente l'école de Kung Fu de Monsieur Han, Jackie Chan. On a la chance d'avoir Jackie Chan en Chine, qui doit déménager à New York avec sa mère. Celui-ci souhaite que son fils intègre une école prestigieuse et qu'il mette de côté son sport de combat, parce qu'il a eu un drame dans sa vie. À son arrivée dans sa nouvelle ville, Lee rencontre Mia, une camarade de classe, ainsi que le père de celle-ci, avec lequel il se lie d'amitié. Lee se retrouve ensuite entraîné dans une compétition d'arts martiaux, évidemment, où il doit affronter de redoutables adversaires. C'est très classique, on est dans le pur Karate Kid, mais c'est fait avec du cœur, c'est fait avec de la ténérosité. On va faire revenir à un moment Daniel LaRusso, c'est totalement justifié. Ta venue va nous expliquer des choses sur le passé même de Monsieur Miyagi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le film, mais si vous avez vu, apprendre tout ce pan du passé de Monsieur Miyagi va vous faire plaisir. L'alchimie entre l'acteur qui fait Daniel LaRusso et entre Jackie Chan est extraordinaire. On va aussi avoir une vraie alchimie avec l'acteur principal Ben Wang et Ralph Macchio, hein, celui qui fait Daniel LaRusso, et tous les autres acteurs, hein, franchement c'est très bon. La réalisation est aussi excellente, avec plein de petites idées très fun qui rendent le sujet moderne, mais surtout, moi je vais vous donner mon verdict final sur ce film, sans spoiler. Pour moi, Karate Kid Legend, il réussit parfaitement son pari, rendre hommage au passé tout en regardant vers l'avenir. Il est porté par une réalisation inspirée, des valeurs fortes et un casting solide. Le film, il séduit par son élégance et son optimisme. C'est une suite qui fait honneur à la saga tout en traçant sa propre voie. C'est ça qui est très fort. Et c'est tellement rare que, franchement, il fallait que je souligne. Donc, en gros, c'était la meilleure, pour moi, franchise en termes de revival. Et clairement, dans un moment où on est dans la sinistrose, voir une franchise qui respecte son passé, qui regarde son avenir avec confiance et qui vous donne un vrai bol d'optimisme, franchement, Louis-Marie, n'hésitez pas, allez voir Karate Kid Légende et regardez Cobra Kai, vous ne le regretterez pas, je vous remercie.
Eh bien, rendez-vous est pris, on regarde Cobra Kai et on fonce voir Karate Kid Légende. Merci Grégory Com. Sur la musique signée Goran Bregovic pour le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, on parle des reprises sur le grand écran, justement. Ce très beau film sorti en 1994 de Patrice Chéreau sera proposé demain, jeudi 11 septembre à 19h, dans le cadre de la séance Il était une fois au cinéma Pathé Wilson. Une séance qui sera précédée d'une présentation de l'actrice Dominique Blanc, qui joue dans le film, aux côtés de Philippe Rouillet, journaliste et critique de cinéma. Un film sublime avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil et Jean-Hugues Anglade. Et puis, une reprise qui est ressortie en salle et qu'on peut voir au moins une fois par jour. Alors pourquoi s'en priver ? Il suffit de la voir un jour. Entre le ciel et l'enfer, le film d'Akira Kurosawa, sorti en 63 avec son acteur vedette et fétiche Toshiro Mifune. Et puis, on clôturera ses reprises sur le grand écran avec le CGR à Rodez, qui, à la place des plans cultes, nous propose en ce début de saison et jusqu'en janvier 2026, Agnès Varda. Tous les jours, un film. Mais oui, d'Agnès Varda et trois films différents par mois. Ce mois-ci, c'est Saint-Ouen-Illois, Murmure et Jacques de Nantes. Voilà pour les reprises sur le grand écran, sur le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision garantie sans blocage, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Entre ses mains, Dan Fontaine avec Benoît Poulvord et Isabelle Carré. Claire rencontre Laurent, mais voilà un Laurent qui cache tout de même un côté assez sombre. Un drame psychologique qui parvient à captiver avec un Benoît Poulvord. À contre-emploi, vendredi sur France 5 à 21h, ce sera Le goût des autres d'Agnès Jaoui. On ne présente plus ce film. Avec Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro, Agnès Jaoui et Gérard Lanvin. C'était le premier film réalisé par Agnès Jaoui. Un mélange subtil d'humour et de profondeur vraiment à revoir. Dimanche sur France 2 à 21h, ce sera Gone Girl de David Fincher avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Nick Dune découvre avec horreur que son épouse a disparu. Mais ce couple idéal, l'était-il vraiment ? Un récit labyrinthique prenant d'un bout à l'autre, même si la fin n'est pas au niveau, à mon avis. Lundi, Arte, 21h, un petit film de guerre, Louis-Marie, L'Aigle s'est envolé, un film de John Sturges, 1975. Avec Michael Caine, Robert Duvall et Donald Sutherland. Alors, Adolf Hitler décide d'enlever Winston Churchill, son chien et son cigare. Alors, je ne sais pas si c'est réaliste, enfin, si c'était réel, mais bon, voilà. Donc, il va lancer un commando comme ça sur Londres pour kidnapper ce bon vieux Winston. Un film d'action qui se distingue par son scénario original et un casting au top. Le conseil Blu-ray, ce sera la balade de Narayama de Shohei Imamura, Palme d'Or à Cannes en 1983. L'histoire d'Orine, une vieille femme qui atteint l'âge fatidique des 70 ans. Et comme le veut la coutume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama pour être emportée par la mort. Voilà un magnifique film à découvrir ou à redécouvrir aux éditions The Jokers pour 25€. Tenez Guillaume, je vous l'offre même si vous n'êtes pas là. Et ce sera tout pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Cessez vos efforts pathétiques pour essayer de me draguer. La seule idée que vous pourriez avoir une seule chance, c'est déjà une insulte vis-à-vis de moi.
Qui ne tenterait de rien.
C'est ce que j'allais vous dire. Eh bien, sur les Inkspot. Inkspot qui a interprété cette chanson en 1949.
Oui,
c'est
votre jeunesse. Ça,
dans le film Passeport à Pimlico. Inkspot, et ça s'appelle I Don't Want to Set the World on Fire. Je ne veux pas mettre le feu au monde.
Non. Il y en a d'autres qui le font pour lui.
Oui, effectivement. Laurent, sur les Inkspot, quels sont vos coups de cœur?
Bon, ce sera simple, Sirat d'Oliver Lax, Connemara d'Alex Luce et Le Fifiro du 15 au 21, et vous pourrez rencontrer le président Macron.
Ben oui, le président Macron.
Brigitte.
Effectivement. Ah, pour moi, on a. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Ben, Sirat d'Oliver Lax, Libre-échange de Michael Angelo Covino, Sean le Mouton.
Ah oui.
Ouais, Sean le Mouton, ouais. La Ferme en Folie, Lee Wilton et Jason Glass, on aime ces stop motion. On aime ce mouton.
Ah oui.
Bah ouais, ah oui. On l'aime beaucoup. Et puis évidemment, le Fifi Gros.
Bien sûr.
On foncera retrouver
Banzai.
Nos amis. Banzai, oui, Banzai. Et tiens, d'ailleurs, on a un message de leur part.
Viendez au Fifi Gros.
Voilà, avec une bonne baffe, comme d'hab. Et on retrouve les Inkspots pour nous amener tranquillement jusqu'à la fin de l'émission.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
N'oubliez pas que vous pouvez aller voir en avant-première Sacré-Cœur grâce à Omega CGR, cinéma@radioprésence.com ou aimer la page sur Facebook Radio Présence. Salut!
Radio Présence à Foix 100.2.